Bonjour Emeline Ferry.
Bonjour.
Avec à la une ce matin des millions de Français qui se préparent à un couvre-feu avancé dès ce soir. Tout le monde sera à la maison dès 18h dans 15 départements de l'Est.
Oui, mais les autres titres, ce sont les irréductibles fêtards bretons évacués. Une énorme rave party qui dure depuis jeudi soir en Ille-et-Vilaine. Les gendarmes viennent de démarrer l'évacuation. Avec le Brexit, l'envie d'indépendance des Écossais se renforce, mais que deviendrait alors la reine Elisabeth pour eux? Réponse dans ce journal. En Corée du Sud, l'avortement n'est plus illégal, la loi a changé, mais il n'est pas complètement légal non plus. Les textes juridiques ne sont pas clairs, on vous explique dans quelques minutes. Et puis on ira sur la plage de Canet en Roussillon, avec quelques courageux qui ont bravé le froid pour leur traditionnel bain du Nouvel An.
Et puis à 8h20, question ce matin au chef cuisinier, chef d'entreprise aussi, Thierry Marx. 2021, année de la gastronomie, a promis le Premier ministre. Eh bien, on verra avec Thierry Marx ce que cela signifie.
France Inter.
Le rideau des commerces fermé, plus personne dans les rues, dans les parcs en fin de journée. 15 départements se préparent donc à un couvre-feu dès 18h aujourd'hui.
Oui, la mesure entre en vigueur ce soir dans une partie du Grand Est, de la Franche-Comté, également dans les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes. Objectif, limiter les interactions sociales et espérer ainsi freiner la propagation du virus. Et même si les commerces et les restaurants vont subir les conséquences, on n'avait pas le choix, estime Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France.
Pour les commerçants, la journée s'arrêtera à 17h, 17h30, dans les petites localités où on a 10 minutes pour entrer chez soi. Mais si vous êtes dans une grande ville ou une métropole, que vous avez des transports en commun à prendre pour rentrer à votre domicile, il faudra s'arrêter avant. C'est inévitable. Mais plutôt qu'un troisième confinement et une fermeture radicale des commerces comme pendant le premier et le deuxième confinement, moi, il n'y a pas photo, je choisis l'aménagement du couvre-feu. On peut considérer que chacun doit un peu s'organiser. Alors, il y a cette perspective, cette amplitude horaire supplémentaire avec les dimanches ouverts, ça peut améliorer un peu, atténuer un peu les effets du couvre-feu. Et bien sûr, je réclame et je demande ou écris si avant les soldes c'est ouvert, ça le sera pendant les soldes.
Et ce sont donc 15 départements qui sont concernés par ce couvre-feu avancé. Pardon.
On va vous apporter un verre d'eau.
La liste de ces départements est sur franceinter.fr. Excusez-moi. Au lieu des 20 départements envisagés au départ, ce sont donc 15. Le gouvernement a revu sa copie. Et l'Allier, par exemple, échappe à ce couvre-feu. C'est du bon sens pour Claude Riboulet, le président du département, pour qui la mesure n'était pas adaptée.
C'est le bon sens qui l'a remporté. Nos personnes les plus sensibles dans l'Allier, c'est les 65 ans et plus. Et évidemment, on a eu des clusters dans des maisons de retraite, dans les EHPAD. Et à ce titre-là, c'est pas le couvre-feu à 18h qui aurait davantage protégé ces personnes-là. Cette idée d'avancer le couvre-feu à 18h dans la vie ne correspondait pas à la fragilité des personnes les plus confrontées au Covid. En plus, ça aurait perturbé le fonctionnement, évidemment, de nos commerces, de la vie quotidienne, sans que ça soit la mesure la plus adaptée. Donc, ce qu'il faut, c'est des mesures qui soient différenciées, personnalisées, département par département. Et chez nous, la mesure attendue, c'est d'être capable de vacciner en priorité dans l'Allier plutôt qu'ailleurs, dans les EHPAD et dans les établissements médico-sociaux.
Et il faudra attendre une quinzaine de jours avant de voir les effets du couvre-feu avancer à 18h. En attendant, on continue de scruter avec attention les chiffres de l'épidémie. Plus de 20 000 nouvelles contaminations recensées lors des dernières 24 heures, légèrement moins que la veille. On observe également une timide baisse des patients hospitalisés et du nombre de malades en réanimation, ils sont 1133.
L'actualité ce matin, c'est aussi en Ille-et-Vilaine où la fête est terminée.
Oui, l'immense rave party commence à être évacuée. Plus de 2000 fêtards étaient réunis pour fêter le nouvel an dans un hangar désaffecté à Lieuron. Une fête sauvage, sans masque, sans gestes barrières. Et pour préparer l'évacuation, une réunion de crise a eu lieu hier soir place Beauvau avec Gérald Darmanin. Et les gendarmes ont commencé à évacuer il y a quelques minutes cette fête sauvage, explique Jean-Luc Chesnais, président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine.
La musique s'est arrêtée. Il y a des personnes qui sortent progressivement. Alors, elles vont devoir se plier au contrôle des services de sécurité parce que tous ont commis au moins l'infraction par rapport au couvre-feu, par rapport à l'absence de port de masque. Mais il y a également, en parallèle, le préfet a déposé une plainte auprès du procureur de la République qui a ouvert une information judiciaire. Il y aura des personnes qui auront des comptes plus important à rendre par rapport aux conséquences de cette action. Il y a considérable de moyens qu'il y a derrière. Bon, j'en appelle maintenant à la responsabilité des participants qui doivent quitter les lieux dans le calme et le plus rapidement possible et se soumettre aux contrôles qui vont être imposés. Mais je redis aussi que ça pose quand même un problème majeur de responsabilité que de créer un événement de cette nature dans le contexte du moment, alors que nos équipes de soignants, les équipes du SDIS, les équipes des routes sont déjà très éprouvées par l'année que l'on vient de vivre.
Jean-Luc Chesnais, au micro de nos confrères de France Info. On rappelle que 3 gendarmes ont été blessés la nuit dernière en essayant d'intervenir et leur véhicule a été incendié.
C'est donc définitif depuis hier. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne.
Et l'une des conséquences du Brexit, ce sont les envies d'indépendance des Écossais qui remontent en flèche. Mais avec une question, que deviendrait alors la monarchie ? L'Écosse abrite en effet l'une des résidences estivales préférées de la reine Elisabeth au cœur des Highlands. Une Écosse indépendante voudra-t-elle encore de la famille royale ? Réponse avec Marie-Pierre Véraud.
La neige et le verglas ont transformé en patinoire les abords du château de la reine à Balmoral. Mais cela ne décourage pas les promeneurs qui aiment venir y admirer cerfs et biches. Et tous sont unanimes. Ils souhaitent se débarrasser de la tutelle de Westminster, mais ils garderont la reine.
As long as she's got a passport.
Tant qu'elle aura son passeport écossais, elle pourra venir, plaisante Ken, qui s'enorgueillit d'avoir croisé Lady Di quand elle faisait ses courses avec les petits princes. Les royaux ici font presque partie de la famille. En plus, ils attirent des touristes et c'est bon pour le village. Donc, on ne va pas la mettre à la porte tout de suite. D'autant, croit savoir Guy, appareil photo en bandoulière, que la reine est de sang écossais de par sa grand-mère, qui a grandi non loin d'ici.
But obviously she has a Scottish heritage.
Ali approuve. Elle se réchauffe d'un café avec un groupe d'amis venus d'Aberdeen, tous fervents indépendantistes.
If you look at Scotland,
en Écosse, nous dit-elle,
almost every corner of
où que vous regardiez, il y a un château,
there.
Dans chaque coin.
You know,
la royauté fait partie de notre histoire, de nos racines.
You know, royalty is what is part of the history here.
Dans un Royaume-Uni qui s'effrite, la monarchie, elle, conserve son aura. Balmoral, Fabien Gosset, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Et autre changement du 1er janvier, une bonne nouvelle pour les Sud-Coréennes. Le pays vient de légaliser l'avortement, même s'il était déjà toléré et pratiqué. Seules les femmes victimes de viol ou dont la grossesse mettait en danger leur santé pouvaient bénéficier d'une interruption de grossesse. Depuis hier, donc, la loi qui criminalisait l'avortement a été supprimée. Mais il n'existe pas encore de texte législatif pour l'encadrer. Les explications à Séoul de Nicolas Roca.
L'entrée dans l'année 2021 a un goût de victoire pour Nae Young, dirigeante de l'association Share, une organisation de défense de droits des femmes. Après 67 ans d'interdiction, l'interruption volontaire de grossesse n'est plus illégale en Corée du Sud.
Les membres de l'Assemblée nationale n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour amender la loi existante. Elle devait expirer un an après la décision de la Cour constitutionnelle d'avril 2019 qui affirmait qu'elle était illégale. Les dispositions pénales sur l'avortement dans la loi qui le criminalisait ne sont plus effectives depuis ce 1er janvier 2021. Je suis très heureuse de partager cette bonne nouvelle de Corée du Sud.
De fait, l'avortement n'est plus limité à un certain nombre de semaines de grossesse, ce qui fait réagir le mouvement Pro-Vie qui milite pour le vote de plusieurs amendements. Tout d'abord pour interdire l'avortement après 6 ou 10 semaines et puis afin que les médecins aient la possibilité de refuser de pratiquer une IVG. Certaines associations de défense de droits des femmes souhaitent aussi un cadre juridique, mais pour garantir l'accès à l'avortement pour toutes et une couverture par la sécurité sociale. En tout, 8 amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale, ce qui pourrait entraîner de vifs débats dans les mois à venir. Nicolas Roca, Séoul, France Inter.
Il est 8h09. Avec l'arrivée des flocons de neige, un appel à la prudence dans les Vosges.
Oui, il est tombé beaucoup de neige ces derniers jours, plus de 50 cm de poudreuse par endroit. Alors bien sûr, on a envie d'en profiter, de faire des bonhommes de neige, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. À Xon, rue Longemer, le peloton de gendarmerie de montagne est intervenu quasiment tous les jours cette semaine pour porter secours aux imprudents. Pour éviter les accidents, l'adjudant Leuenberger nous rappelle quelques conseils de base.
Tout ce qu'on dit, c'est déjà un minimum qu'on sort en montagne, c'est de savoir où on va et donc de préparer un minimum son itinéraire, de calculer un petit peu le délai de l'itinéraire en question de la randonnée. Tout ça pour éviter de partir tard, comme on l'a rencontré ces derniers temps, où des personnes partent en milieu d'après-midi. Et là, le problème actuellement, c'est qu'on a une tombée de la nuit qui survient rapidement. En plus, avec une visibilité qui est assez faible du fait que la couverture nuageuse est assez importante. Donc là, vers les environs de 16h30, 17h, en montagne, il fait déjà sombre, voire nuit. Donc déjà, c'est de partir le matin et d'effectuer les randonnées jusqu'en milieu d'après-midi, au maximum. Et effectivement, d'être équipé de vêtements chauds, de vêtements adaptés, imperméables, parce qu'on a quand même une certaine humidité en montagne. Et également, d'avoir un éclairage à disposition autre qu'en son téléphone portable. Parce que le problème, c'est qu'on a des gens qui n'ont pas d'éclairage, qui utilisent leur téléphone portable. Et lorsqu'ils sont perdus, qu'ils nous contactent et qu'on veut les joindre, forcément, il n'y a plus de batterie.
Voilà pour ces quelques conseils. On fait un point complet sur la météo à la fin de ce journal. Et en tout cas, eux n'ont pas eu peur du froid. Les courageux baigneurs du 1er janvier. Chaque année, c'est la tradition. Un bain dans la mer glacée pour célébrer la nouvelle année qui démarre. Hier, sur la plage de Canet-en-Roussillon, le soleil était au rendez-vous. Alors, les plus déterminés sont allés faire trempette, Perrine Roguet.
Une dizaine de degrés dehors, un peu de vent mais du soleil. Il n'en fallait pas plus pour Laurence et à l'écouter, l'eau était presque chaude.
Alors la température, je dirais un petit 13, alors voire 12, on y serait resté.
Traditionnellement, tous les 1er janvier, on va à l'eau. Distanciation physique, geste barrière, mais on y est allé.
Quelques mètres plus loin, il y a les novices, mais pas moins convaincus comme Florence.
Je l'ai fait, un petit peu fraîche. Ça fait battre le cœur.
C'est sympa.
Non, s'il fait beau, je le referai, oui.
Et puis il y a les contraints et forcés.
Alors, ça va?
Je dis juste, elle est bonne. C'est Pascal qui m'a forcée. C'est vraiment une expérience.
Christophe est habitué à se baigner le 1er janvier, mais dans des eaux plus chaudes, en vacances. Alors forcément, cette année, le bain a une saveur particulière.
Ça m'a évoqué l'armée, car l'eau était fraîche comme ça. Et quand il faut sauter, on saute.
Une fois baigné, il faut manger un plat de lentilles pour bien commencer l'année. Synonyme de bonheur, de santé et de prospérité, paraît-il.
Le reportage de Perrine Roguet, France Bleu Roussillon.